L'actualité des Alpes du Sud. Les terrasses solidaires à Briançon n'accueillent plus d'exilés depuis dimanche.
Les bénévoles et administrateurs font face à un raz-de-marée d'arrivées alors que la capacité d'accueil est de 80 personnes. Elle est très souvent dépassée. Mais hier, ce sont 200 migrants qui demandaient un lieu de répit. Les conditions de sécurité ne sont plus assurées. L'association demande aujourd'hui à l'État de prendre ses responsabilités.
Les sages-femmes mobilisées aujourd'hui.
Manifestation en fin de matinée devant le Chicaz de Gap, toujours pour être reconnue. Une délégation doit rencontrer le sénateur Jean-Michel Arnaud.
Elle prend un reportage dans une savonnerie qui prône le zéro déchet.
Direction Châteauvieux à Kezia, jeune entreprise menée par un couple, de la saponification à l'emballage. Tout est pensé pour réduire l'empreinte sur l'environnement.
Et puis la vallée de Lubaï, nostalgique des heures mexicaines.
La vallée, on le sait bien, a un lien très particulier avec ce pays aztèque. Et pour la troisième fois, elle organise cette semaine le Dia de los Muertos, le jour de la fête des morts, avec les célèbres Catrinas. Et puis en hockey sur glace, le derby a rendu son verdict hier soir. Victoire des Diables Rouges de Briançon. Grosse déception pour les Rapaces de Gap. Côté météo, ce sont encore de très belles conditions.
Oui, le temps reste sec et bien ensoleillé sur nos deux départements. Des températures maxi aujourd'hui qui s'échelonnent de 16 jusqu'à 21 degrés. Les terrasses solidaires à Briançon n'accueillent plus d'exilés depuis ce dimanche.
Une décision prise par les administrateurs, façon pour eux de mettre l'État face à ses responsabilités. Décision prise alors que la veille, samedi, les nouveaux locaux de l'association étaient inaugurés. Depuis le mois d'août, Refuge solidaire a déménagé dans cette ancienne clinique après que la municipalité ait décidé de ne pas renouveler la convention d'occupation des locaux situés rue Pasteur. 200 petits portefeuilles ainsi que des mécènes ont permis aux associations d'acquérir ces lieux. Ils sont devenus un endroit de répit le temps de quelques jours pour les migrants qui passent la frontière. Sylvain Aymar est gestionnaire.
Que les besoins fondamentaux soient remplis, hein, ils arrivent, ils sont crevés, donc qu'ils puissent se reposer, se soigner s'ils ont besoin, manger, se nourrir, vraiment se reposer, et surtout qu'ils soient en sécurité, parce qu'on est nombreux et vraiment le besoin de sécurité est très très important.
Les membres de l'association observent un changement de profil des migrants. Jusque-là, ils voyaient une majorité d'Africains subsahariens, mais depuis quelques mois, force est de constater que la situation en Afghanistan pousse ses habitants à quitter le pays. La plupart ne veulent pas rester en France, mais poursuivre leur route en Angleterre ou en Allemagne. 90% des personnes passées dans les terrasses solidaires n'en restent que 3 jours en moyenne. Mais hier, dimanche, c'était un raz-de-marée de personnes à la porte. Plus de 200 exilés, alors que la capacité initiale était de 50 places. Elle a été augmentée par la suite. Écoutez Max Duez, membre du conseil d'administration de Refuge solidaire.
Cette jauge est complexe et c'est l'enjeu du problème. Dans l'ancien refuge, la jauge permise était à 35, mais on le sait, elle était tout le temps dépassée. La jauge que nous sommes mise dans les nouveaux locaux des terrasses, on l'a mise à 50. La commission de sécurité a accepté une jauge à 81. Il n'y a pas à cacher les chiffres, ils sont donnés quotidiennement à la sous-préfecture. C'est parfois dépassé au double. Et on ne peut pas le gérer, c'est un raz-de-marée qui arrive, qu'on n'a pas choisi. On ne fait pas un appel d'air, c'est des gens qui arrivent et qui nous submergent. Cette question de la sécurité nous interpelle depuis le début, puisque depuis le début nous étions une association en fait de bénévoles. Vu la charge que cela représente, on est en train de professionnaliser. Au 1er novembre, on engage 6 équivalents temps plein. On engage des veilleurs de nuit, des factotums, des personnes pour l'accueil, une direction générale, et nous voudrions étendre cette professionnalisation et aussi faire comprendre que l'État réalise que la migration n'est pas que conflictuelle puisqu'elle apporte l'impérieuse nécessité d'engager du travail.
Des propos recueillis à Briançon par Thibaut Durand. Les membres de l'association préviennent donc l'État. Ces missions d'accueil ne reprendront que lorsque les conditions de sécurité pourront être respectées. Cela implique que d'autres opérateurs prennent en charge l'accueil d'urgence.
Elles quitteront à nouveau les salles d'accouchement pour gagner les rues.
La colère des sages-femmes ne faiblit pas. Il faut dire que depuis leur dernière mobilisation, le 7 octobre, elles n'ont pas obtenu de réponse. Ce qu'elles demandent, d'être vues, entendues entendu, cela passe par une revalorisation salariale et une reconnaissance dans la grille professionnelle. Un rassemblement est à nouveau organisé ce matin à 11h devant le parvis du Chicas à Gap, mouvement soutenu par la CFDT Santé Sociaux. Notez que le syndicat, accompagné d'une délégation de sages-femmes du Chicas, doit également rencontrer aujourd'hui le sénateur Jean-Michel Arnaud qui s'est engagé à porter leurs doléances.
Alpe 1, reportage ce matin dans une savonnerie qui fourmille de 1000 projets.
Kezia a été lancé à la fin de l'année 2019 pour des savons vendus depuis novembre 2020. Installée à Châteauvieux, cette entreprise est dirigée par Coralie Selin, une jeune chimiste de 35 ans. Avec son compagnon Antoine Ripoll, ils se sont lancés dans une production qui se veut très respectueuse de l'environnement. Un couple qui cofinance également un projet leader pour développer une filière d'approvisionnement en corps gras cosmétique sur le territoire haut alpin au Ravalori.
C'est de la grosse cuisine, la savonnerie. Donc j'utilise mes grosses marmites.
Coralie Selin voulait faire de la chimie plus quotidienne. Après quelques années de travail aux Pays-Bas pour une multinationale en biotechnologie, elle a décidé de revenir en France pour créer sa savonnerie dans les Hautes-Alpes. Un choix qui n'a pas été fait au hasard puisque sa famille est originaire de la région. Elle s'est donc installée avec son compagnon à Châteauvieux dans une ferme dont une partie a été transformée en savonnerie.
Faire du savon, c'est tout simple, c'est une grosse mayonnaise. Donc on va transformer des huiles, des corps gras, en molécules de savon en utilisant une base forte. Moi, j'utilise la saponification à froid, ce qui est du coup une méthode qui n'utilise pas beaucoup d'énergie.
Une fois que le processus de saponification entre en jeu, le savon est versé dans des moules en bois. Très vite, la réaction opère, les savons sont alors découpés.
Donc là, je tends les fils. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, on peut découper.
À la savonnerie Kezia, on coupe les savons en musique. C'est une machine en bois avec des cordes de guitare qui a été conçue. Des savons qui seront ensuite vendus sans emballage dans une logique de zéro déchet. Le logo de l'entreprise et les numéros de lot sont donc estampillés directement grâce à des tampons fabriqués par un artisan.
Ce que j'aime bien faire à la savonnerie, c'est vraiment pousser la démarche parce que j'étais frustrée qu'en en fait, il y ait un produit qui soit zéro déchet ou écologique. Derrière l'entreprise et la démarche et la fabrication et ce qu'on utilisait, les matériaux utilisés pour la fabrication, en fait, ça ne suivait pas. Et moi, ça me frustrait beaucoup en tant que consommatrice.
Une savonnerie qui a d'ailleurs reçu la certification Nature et Progrès. Elle garantit des produits cosmétiques respectueux de l'environnement. À Kezia, le choix a été fait de travailler avec des matières premières françaises, exception faite pour l'huile d'olive espagnole, mais le territoire manque justement d'huiles locales pouvant être utilisées pour les cosmétiques. Alors Coralie Selin et Antoine Ripoll ont décidé de développer cette filière à travers un projet leader soutenu par l'Europe et la région.
L'idée là-dedans, c'était de faire déjà tout un travail de prospection pour savoir est-ce qu'on fait de l'huile quand même sur le territoire ou pas. Est-ce qu'on a une expérience à minimum de tout ça? Est-ce qu'on l'a fait par le passé? Est-ce qu'il y a eu d'autres expérimentations qui ont été menées? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut développer ici qui serait pertinent, à la fois d'un point de vue économique pour les agriculteurs, mais aussi sur un point de vue environnemental et sur un point de vue agronomique aussi.
L'an prochain, une phase de test sera menée sur des parcelles d'une dizaine d'agriculteurs avec certaines plantes oléagineuses. Ce projet leader se conclura en décembre 2022. Un état des lieux sera alors fait pour voir si effectivement cette filière d'approvisionnement en corps gras cosmétique est viable dans les Hautes-Alpes.
Merci Aurore. Vous pouvez retrouver les savons Kezia sur le site internet de la savonnerie, mais aussi sur le marché de Gap deux fois par mois ou encore dans certaines boutiques spécialisées comme le panier du Valgo à Saint-Firmin.
La fête des morts, une tradition mexicaine qui revient dans la vallée de l'Ubaye.
Il faut remonter au 19e siècle pour comprendre les liens qui unissent la vallée avec ce pays d'Amérique latine. Depuis le départ au Mexique de près de 3000 Ubayens qui ont fait fortune dans la banque et le textile, leur retour au pays a ancré ce solide lien avec le pays aztèque et notamment les fameuses villas mexicaines. Pour perdurer cet attachement, Ubaye Tourisme organise dès ce mercredi et jusqu'à dimanche la troisième édition de la fête des morts. 4 jours animés et joyeux, programme avec de la danse, de la musique, de la cuisine traditionnelle, des expositions et le point d'orgue, le défilé des Catrinas géantes ce samedi à 11h et 15h, place Vallée des Bravos à Barcelonnette. Un rendez-vous ô combien coloré pour Draghi Vojvodanovic, le directeur Dubaï Tourisme, et ce, malgré l'obligation du port du masque et certaines restrictions sanitaires.
C'est des marionnettes géantes qui sont typiques du Mexique et qui sont utilisées pour toutes les fêtes nationales qui peuvent se dérouler au Mexique. Donc nous, on a pu en acquérir 5 qu'on a fait venir de Mexico. Elles mesurent à peu près 6 mètres de haut et elles symbolisent, elles représentent typiquement la fête des morts. Donc on va voir ce grand défilé qui va être ouvert par les traditionnels mariachis qui vont entraîner avec leur musique le défilé. Il n'y a qu'une chose qui va être un petit peu différente cette année, c'est que traditionnellement, on a des maquilleurs professionnels qui sont présents et dans le cadre des restrictions sanitaires, on n'a pas le droit de faire de maquillage. Donc on a prévu des kits qu'on va distribuer à l'office de tourisme en amont et chacun pourra se maquiller chez soi et venir participer ensuite au défilé. Alors certains vont aussi certainement maquiller une partie du masque.
Après les 5000 visiteurs en 2018 et les 7500 curieux en 2019, l'objectif est désormais d'atteindre la barre des 10 000 personnes en 2021, prouvant ainsi la fidélisation du public après l'annulation de l'événement l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Notez que le budget de cette 3e édition de la Dia de los Muertos s'élève à 45 000 euros dans le cadre du programme de coopération transfrontalier européen entre la France et l'Italie.
Alpin Sport. Alpin Sport. Avec la nouvelle journée de Ligue Magnus ce dimanche soir et les Diables Rouges de Briançon qui sortent enfin la tête de l'eau sur la glace de Gap.
Après 5 défaites d'affilée, les hommes de Daniel Sedlak renouent avec la victoire face aux voisins alpins. Les joueurs de Briançon se sont imposés 4-3 à l'Alparena grâce notamment à un doublé de l'attaquant Rudolf Una. Une victoire qui permet aux Diables Rouges de remonter à la 9e place au classement de la Ligue Magnus. À l'inverse, avec 2 défaites en 2 matchs, les Gapensés sortent du podium et tombent à la 5e position. Notez que demain, les Diables Rouges vont devoir confirmer contre Rouen à René Froger. De leur côté, les Rapaces de Gap vont pouvoir se relancer sur la glace de Cergy Pontoise. Et puis ce dimanche, c'était le top départ à Sölden en Autriche pour les skieurs français. La première course de Coupe du Monde de ski alpin a été remportée par le Suisse Marco Odermatt devant Roland Lettinger et Zan Grandjeck. Un podium sans français donc lors du premier géant de la saison. Alexis Peintureau doit se contenter de la 5e place. Mathieu Fèvre termine lui 11e après une 2e place à l'issue de la première manche. Cyprien Sarrazin, le Alpin et la surprise de la journée, il finit 23e. La saison se poursuit donc toujours en Autriche à Lech les 13 et 14 novembre avec les épreuves de parallèle.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.